Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Vous savez, il y a une bonne bactérie dans l'eau du Gange qui tue toutes les mauvaises bactéries. C'est pour cela que nous pouvons dire qu'elle contient l'eau la plus pure sur Terre.
Les bonnes bactéries ne peuvent pas polluer l'eau. Voilà ce que disent les fidèles du plus grand festival religieux du monde, le Kumbh Mela en Inde, évidemment, qui plonge donc les fidèles dans le Gange. Un Gange dans lequel vous ne mettriez pas un ongle, croyez-moi, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars, et Amélie Perrier, vous l'avez entendu au Tibet, au Bangladesh et au Zimbabwe. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce. Une petite odeur de neige ce soir avec la reine des neiges qui a une grande nouvelle à vous apprendre. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et tous ses dirigeants dans le monde qui joue les mauvaises fées sur le berceau de l'Europe. Avant cela, c'est en Éthiopie et en Érythrée que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
On a déjà parlé ici, dans Un jour dans le monde, de ce qui se passait en Éthiopie et chez ses voisins, de cette paix surprise donc avec l'Érythrée qui date du 9 juillet dernier, très officiellement, de ce jeune Premier ministre éthiopien aussi qui réforme à tour de bras. On est content d'y revenir pour prendre des nouvelles. Vous donnez aussi un avant-goût d'un grand reportage de Valérie Crova qui sera diffusé dans Interception sur Inter. Ce sera dimanche. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
C'est vous qui signez ce reportage. Vous allez nous en donner un petit avant-goût donc dans un instant. Et bonsoir Roland Marchal.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Afrique au Centre National de la Recherche Scientifique à Paris. Avant d'aller surtout à cette frontière avec l'Érythrée que près de laquelle Valérie s'est approchée, racontez-nous ce qui se passe désormais. Comment ça avance en fait cette nouvelle Éthiopie, on a envie de dire, qui est née maintenant il y a quelques mois, on va dire. On a beaucoup parlé de ce jeune Premier ministre, peut-être un homme pressé, peut-être trop pressé, mais quand même, libération de prisonniers, libération d'internet, retour des opposants. Est-ce que tout ce tableau est aussi blanc qu'il en a l'air?
Écoutez, évidemment, il faut être optimiste. Il y a de grands changements après une période qui a été un peu une glaciation politique entre 1994 et 2018. Mais il faut pas ignorer les défis et puis l'héritage qui est quand même très lourd. L'héritage, c'est d'abord des conflits sociaux qui sont de plus en plus ethnicisés, qui sont violents, qui sont pas facilement résolubles parce que ça c'est ancré dans des problèmes fonciers, dans des problèmes d'identité. C'est un pays aussi qui traverse une période de crise économique réelle, une inflation problématique, déficit courant important, donc dévaluation de la monnaie, gros problème de devises fortes qui manquent. Et puis c'est un régime qui finalement a élu ce Premier ministre parce qu'il savait que c'était soit ce changement-là, soit partir. Donc, et partir dans le sang. Donc on ne sait pas si cette période c'est un intermède jusqu'aux élections ou si c'est véritablement une véritable bouffée d'oxygène pour la population, il faut le dire, et en même temps un changement de cours politique qui à terme aura des effets dans la région parce que c'est un régime qui devrait devenir, si on est très optimiste, un des régimes les plus démocratiques de cette zone.
Alors, il a l'air cependant toujours très populaire. Il y a quelque chose de très marketing et de très occidental dans la figure, en tout cas, qu'il renvoie. Roland Marchal et Valérie, j'ai vu que vous vouliez intervenir.
Oui, je crois qu'il faut pas que effectivement sa communication politique, elle est extrêmement occidentale et extrêmement moderne, et que donc du coup il faut quand même s'interroger parce que l'Éthiopie n'est pas ça. Elle est évidemment ça quand on regarde les plus grandes villes, mais elle est d'abord un pays où l'agriculture, les zones rurales pèsent d'un poids démographique et économique important, et je suis pas convaincu que ce discours qui est à certains moments, je dirais presque celui d'un prêtre, d'un pasteur, puisse accrocher forcément toutes les couches de la population de la même façon. Il est aussi l'expression d'un phénomène, d'une vraie révolution, enfin petite révolution, qui est que pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie moderne, on a quelqu'un qui est donc originaire du principal groupe ethnique qui arrive au pouvoir. Jusqu'à présent, c'était plutôt les descendants de l'Abyssinie historique qui peuplaient les allées du pouvoir.
Valérie, juste en un mot, vous parliez d'un côté messianique. Effectivement, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on sent de ce jeune homme quand on se promène là-bas?
Alors déjà, ce que vous disiez, il est jeune, il a 42 ans, il porte vraiment tous les espoirs de cette jeunesse éthiopienne qui croit en lui. Il est très, dans ses discours qu'il prononce devant le Parlement, juste une petite remarque par rapport à ce que vous disiez, il a une communication mais qui est assez limitée parce qu'il ne donne pas d'interview en fait aux médias étrangers. Il fait très très peu d'interviews, il n'accepte pas les interviews pour l'instant.
Pas fou en fait, d'une certaine façon peut-être.
Voilà. Et sinon, donc dans son discours politique, il met l'accent sur l'unité du pays. Pour lui, c'est primordial, sachant que par ailleurs, il y a des conflits interethniques très importants et il y a un nombre de déplacés énorme en Éthiopie. Il y a 3 millions de déplacés internes et je crois que c'est l'un des pays africains où il y a le plus de déplacés
internes. Donc, Roland Marshall, sur cette réconciliation ethnique, on en est où en fait réellement?
Écoutez, alors il y a deux problèmes. Il y a ce qui se passe au niveau intérieur éthiopien, et là il faut dire que les fractures sont profondes, que les antagonismes sont réels et qu'il va falloir du temps, des moyens, beaucoup de moyens, et puis pas simplement comme il le fait annoncer des décisions, mais les mettre en œuvre. Et ça c'est évidemment dans n'importe quel pays un défi, et je crois qu'en Éthiopie ça le sera aussi, puisqu'on sait qu'une partie de la coalition qui est au pouvoir traîne les pieds. Et d'une certaine façon serait partisane d'une opposition, d'une posture beaucoup plus autoritaire. Ensuite, il y a l'Érythrée. Alors, moi, je crois, si vous voulez, que la question de la paix avec l'Érythrée, elle est importante au niveau régional. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais surtout, elle a d'abord été une mesure prise en fonction de paramètres de politique intérieure. Il fallait diviser son opposition. Et je crois que la paix avec l'Érythrée telle qu'il l'a menée, c'est une grande division qui divise notamment ceux qui tenaient l'essentiel du pouvoir et jusqu'à aujourd'hui l'essentiel du domaine sécuritaire, l'armée, les services de renseignement intérieur, donc les Tigréens, le Front Populaire de Libération du Tigré, qui n'est pas forcément l'ensemble, qui ne reflète pas forcément l'ensemble de la population des Tigraïs, qui est, elle, un peu paye aujourd'hui les pots cassés. Et je crois qu'il a fait ça parce que du coup, il a déstabilisé complètement l'échiquier politique. Alors, c'était bien joué. La question qui est posée aujourd'hui, c'est la même un peu que celle qui s'est posée en 91 après la victoire ou en 93 après l'indépendance officielle de l'Érythrée. C'est quel type de relation entre les deux pays, quel type d'accord économique, de politique économique, quel type de projet régional. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'on est quand même de nouveau dans un discours extrêmement religieux, sur l'amour, sur on est tous ensemble, la paix. Donc tout ça est très bien, mais on voudrait en savoir plus, et ni du côté d'Asmara, donc l'Érythrée, ni du côté d'Addis Abeba, l'Éthiopie, finalement, on a des choses extrêmement concrètes à se mettre, à mettre dans une analyse pour essayer de prévoir ce qui peut se passer.
Valérie Courvavou, vous avez été tout près de la frontière, en fait, avec l'Érythrée. Expliquez-nous où nous sommes, en fait, et on va écouter votre reportage.
Alors, il faut bien comprendre que d'abord, l'Éthiopie, c'est une république fédérale, donc on est allé d'Addis Abeba, la capitale, jusqu'à Mekele, qui est une la capitale de la région du Tigré. De là, on a pris une voiture et on a fait à peu près 3 heures de route pour nous rendre au plus près de la frontière érythréenne.
Et on écoute ce que ça donne, on se retrouvera juste après.
Zalambessa, au nord de l'Éthiopie. Devant nous, un long chemin de terre cabossée s'étend sur une centaine de mètres. Passé un muret de pierre, c'est l'Érythrée. Depuis la réconciliation surprise des deux pays, près de 30 000 Érythréens, en particulier des jeunes, ont franchi la frontière. À une dizaine de kilomètres de Zalambessa, nous nous arrêtons dans une maison. On nous dit que des réfugiés y sont hébergés. Nous croisons deux jeunes Érythréennes, sacs sur le dos. Il faut les rassurer, elles ont peur d'être interviewées.
On a décidé de venir hier, car on ne se sentait pas à l'aise de vivre là-bas, même s'il y a la paix. On n'avait pas le droit de voyager ni de travailler.
Je suis diplômée, faisais mon service militaire. On n'a aucun droit. La conscription militaire est à durée indéterminée.
Les femmes aussi ?
Oui, on ne peut pas échapper au service militaire. C'est pour ça qu'on a traversé la frontière éthiopienne.
Cross the border line to Ethiopia.
La conscription est obligatoire depuis 1995 en Érythrée, ce qui explique l'exode massif des jeunes Érythréens dont certains arrivent jusqu'au rivage de la Méditerranée. De retour à Addis Abeba, nous avons rendez-vous avec Berikat, qui a obtenu le statut de réfugié en Éthiopie. Comment est la vie en Érythrée pour un jeune de 30 ans ?
Hopeless.
Sans espoir.
Berikat a un avis définitif sur le président érythréen.
He's a weasel.
C'est un sorcier, diabolique, pire que Satan. Même en 1993, l'opposition était grandissante, mais il a trouvé des moyens. Il a fait une machination politique. Il a tué la plupart des partis d'opposition, un à un d'ailleurs.
Berikat est très en colère contre les Nations Unies qui ont décidé récemment de lever les sanctions qui pesaient sur l'Érythrée.
C'est de l'hypocrisie. Ils ont accumulé des documents criminalisant le gouvernement érythréen et soudainement tout est parti en fumée. Pourquoi ?
La levée de l'embargo sur les armes et l'interdiction de voyager pour certains responsables a été assimilée à une victoire pour le président érythréen. En réalité, le Conseil de sécurité de l'ONU fait un pari sur l'avenir en misant sur le rapprochement d'Asmara avec l'Éthiopie voisine. De paria, l'Érythrée et ses ports très convoités sur la mer Rouge deviendraient un partenaire de cette corne de l'Afrique en pleine mutation.
On va parler effectivement de ce qui se passe régionalement. Un mot Valérie sur ces gens dont vous parlez, tous ces gens qui traversent la frontière. Vous citiez le chiffre de 30 000. Est-ce qu'ils restent qu'en Éthiopie ? Est-ce que ça devient un endroit où on a envie de rester finalement ? Ou est-ce qu'on sait que tous ces gens, on les retrouvera sur les rives de la Méditerranée et essayant de traverser pour aller vers l'Europe ?
Berikat, que j'ai rencontré, lui, il est en train de constituer un dossier pour partir au Canada. Donc son but, c'est de quitter l'Éthiopie pour partir le plus loin possible. Après, peut-être que lui, il a les moyens de le faire, que l'Érythréen, je veux dire, qui arrive sans argent, ça sera plus compliqué pour lui.
Pardon, allez-y, Roland
Marchal. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Érythrée à ce moment-là, dont les familles, dont une partie des familles, surtout les hommes, avaient déjà pris l'exil, le chemin de l'exil. Donc c'est des gens qui peuvent aussi, à partir d'Addis Abeba, faire des demandes de regroupements familiaux et se retrouver ailleurs.
Roland Marchal, on a entendu parler du pari sur l'avenir dans le reportage de Valérie. Le pari, c'est aussi celui de la contagion, au fond, des réformes ou d'une forte démocratie. C'est aussi ça que sur le
on parie. Alors il faut encore une fois souligner que ce qui se passe en Éthiopie, c'est un processus politique qui est assez confus. À la fois, il y a des discours qui sont admirables, il y a une réalité qui est plus prosaïque, il y a des conflits sociaux qu'il faudra régler, des conflits sociaux qui sont violents. Je parlais tout à l'heure du fait que des Tigréens, donc des gens qui appartiennent au même groupe ethnique que ceux qui ont dirigé la coalition, sont pris à partie dans les universités. Donc, c'est pas forcément très beau. Et là, il y a une question sur jusqu'où ce gouvernement veut aller. Et comment rétablir le calme et est-ce que la démocratie qui a été si longue va durer ? Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est effectivement qu'est-ce qui peut transformer la donne ? Alors, des réformes économiques d'ampleur en Éthiopie, mais on sait, comme n'importe quel pays, à commencer par le nôtre, que ça veut dire chambouler un peu des habitudes, et chambouler des gens qui ont bénéficié de l'ancien régime, et puis aussi...
Là, on parle de grosses privatisations,
Libéralisation qui, en fait, très souvent se traduit d'abord par des pertes d'emploi dans un moment où l'économie ne va pas très bien, où la population a besoin pas simplement de souffler politiquement, mais aussi de vivre mieux. Donc ça, c'est un énorme enjeu, malgré des taux de croissance qui sont impressionnants. Et puis la deuxième grande question, c'est cette paix. Elle ouvre effectivement des possibilités, le retour de l'utilisation du port d'Assab en Érythrée, donc comme ça avait été le cas dans les années 90, sur la mer Rouge, jusqu'en 1998. Mais aussi, que veut l'Érythrée? Et d'une certaine façon, est-ce que le régime érythréen aujourd'hui est capable de clore cette parenthèse terrible du service militaire qui n'avait plus de fin et à retrouver un mode de gestion sociale qui soit quand même un peu plus conforme à la normale?
Et puis une toute dernière chose, pardon Valérie, juste une toute dernière chose. Que veulent les voisins d'en face aussi, le gros voisin d'en face? Que veut l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce que ça dit dans la région? Moi, je me souviens que la première visite visite du nouveau Premier ministre éthiopien, ça a été directement vers Riyad. Ça dit quand même beaucoup de choses.
Oui, alors, il y a des rapports très compliqués. On peut dire que Riyad et Abu Dhabi aident aujourd'hui économiquement Addis Abeba, donc c'est plutôt positif. Mais on peut dire aussi que l'Éthiopie, comme l'Érythrée d'ailleurs, ont une longue tradition, comme le Soudan, ont une longue tradition de ne jamais se laisser enfermer dans une alliance avec des pays de l'autre côté de la mer Rouge. Donc moi, je vois ça avec beaucoup de calme. L'Éthiopie est un grand pays, une grande diplomatie. Ils ne seront prisonniers de rien que de leurs intérêts.
Très grand et très beau aussi, paraît-il. Vous avez de la chance, Valérie. Merci beaucoup, Roland Marchal. Merci mille fois. Interception, Valérie Crova, c'est ce dimanche sur France Inter à partir de 9h10.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe en Inde ce soir, le plus grand festival hindou où on se jette dans le Gange, mais franchement, faut oser, l'eau est, comment dire, très sale. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde sous les radars et Amélie Perrier. Vous verrez notamment comment on essaye en Chine de faire disparaître la langue tibétaine. La chronique pour tous de Julia Foy, c'est un coming out qui fait trembler la planète, Julia.
Oui, alors je ne peux pas vous révéler l'identité de cette héroïne de Disney qui met le feu aux poudres de Twitter actuellement. Je peux juste vous dire, Fabienne, qu'elle a été à la fois libérée et délivrée.
Voilà, on ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, l'Europe, Jean-Marc,
bonsoir, Fabienne, bonsoir
a des faits au-dessus de son berceau qui n'ont pas forcément de bonnes intentions.
Trump, Poutine, Netanyahou, ils se frottent les mains des divisions européennes.
Allez, à tout de suite, autour de 18h55, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Queens et aussi le Canada, figurez-vous, un peu des deux. Voici Leila McCalla de Capitalist Blues sur France Inter. The stakes get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark. Et sur France Inter de Capitalist Blues.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Interdire une langue, Amélie, c'est une méthode d'oppression.
D'oppression, oui. Ainsi, en Chine, les autorités de la région du Qinghai ont ordonné la fin des cours de tibétain. Le tibétain, voilà à quoi ça ressemble.
Tachetele.
Tachetele.
Ajonaka.
Ah, la choka.
Tachetele.
Tachetele, papa.
Tachetele.
Ici, c'est du tibétain dans un très joli vidéo d'Arte Créative. Ouais, apparemment. Sur la manière de dire bonjour dans le monde. Donc là, c'était bonjour en tibétain. Cette langue, c'est la nouvelle cible du pouvoir chinois. Il a déjà interdit l'été dernier aux élèves de la région autonome du Tibet de participer à des activités religieuses pendant les grandes vacances. Parmi ces activités, les cours de tibétain donnés par les moines. Des classes illégales, selon le gouvernement provincial. Il juge les monastères dangereux pour la sécurité des enfants, mal équipés pour les accueillir. Mais en fait, c'est surtout l'identité de la nation tibétaine et des bouddhistes qui dérangent Pékin. Et donc, dans le comté voisin du Qinghai, juste au nord du Tibet, une province avec une forte population tibétaine, là aussi les autorités ont pris en grippe ces cours de langue donnés par les moines. Ils étaient de plus en plus populaires ces dernières années. Seule solution pour que les enfants ne perdent pas leur langue ancestrale face aux Chinois enseignés à l'école. Plus largement, Pékin bataille contre toutes les organisations religieuses sur tout le territoire. Du bouddhisme au christianisme, des églises sont détruites, en passant par l'islam, avec l'interdiction de la burqa et des entraves pour empêcher les musulmans, surtout parmi les fonctionnaires et les étudiants, de faire le ramadan.
La liberté de parole, Amélie, entravée également au Bangladesh.
On reparle là-bas du meurtre d'un blogueur célèbre, Avijit Roy. Il était américain, d'origine bangladaise, ouvertement athée. En 2015, il décide de retourner au Bangladesh à la foire aux livres de Dhaka. Voilà ce qu'il dit à sa femme pour la convaincre. Elle le raconte 3 ans plus tard.
You have to come with me next time. We have to go together.
Il lui a dit, il faut que tu viennes avec moi la prochaine fois. Il faut qu'on y aille ensemble pour voir l'impact que l'on a, surtout sur les jeunes, l'espoir qu'on leur donne. Sauf que le couple est attaqué là-bas, à la machette, dans une rue très fréquentée de Dhaka, la capitale. Elle est grièvement blessée. Lui, il est tué. Attaque attribuée au groupe extrémiste Ansar al-Islam.
We were humanists, atheists.
Et là, elle dit, nous étions des humanistes, des athées, des blogueurs et des écrivains. Elle explique ça aujourd'hui, Bonia Ahmed. On était nés tous les deux au Bangladesh, dans la classe moyenne, on était élevés par des familles instruites, mais la pauvreté, la corruption, un gouvernement répressif et le fondamentalisme religieux rampant étaient tout autour de nous. Alors aujourd'hui, 6 personnes ont été inculpées au Bangladesh, 6 sur les 12 soupçonnées par les enquêteurs. 5 assaillants n'ont jamais été identifiés. Ansar al-Islam est accusé d'être derrière plusieurs meurtres de blogueurs athées, laïcs ou défenseurs des homosexuels. Les autorités ont réagi seulement après un attentat qui a tué des touristes étrangers. Répression brutale, là encore. Les forces de sécurité ont abattu 100 d'islamistes, des centaines d'autres ont été arrêtés.
Amélie, on termine avec une histoire de culture empêchée là par la crise économique.
Ouais, c'est au Zimbabwe, des Africains de tout le continent viennent assister chaque année au IFA, le Festival International des Arts de Harare, la capitale. L'an dernier, ça donnait ça. Ouais, I'm feeling good, plus maintenant au Zimbabwe. Les organisateurs annulent l'édition de cette année. No more, ouais, car le pays est confronté à de très nombreux problèmes économiques et sociaux, dit le communiqué du festival. Manque de liquidité, la monnaie est en chute libre, l'inflation atteint des sommets, le chômage record. Cela fait 20 ans que le pays d'Afrique australe connaît la crise. Mais ces derniers mois, la hausse des taxes sur le carburant a provoqué de violentes émeutes, réprimées dans le sang par le président Mnangagwa. Donc pas de star internationale de la musique cette année pour le Zimbabwe qui est exsangue.
Amélie Perrier, sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup et vous revenez demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Inde que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir avec Sébastien Farcy. En Inde est le plus grand festival religieux du monde. Il a commencé à la mi-janvier. Le Kumbh Mela qui devrait rassembler plus de 100 millions de pèlerins hindous en 2 mois, donc dans la ville d'Allahabad, c'est dans le nord du pays. Bonsoir Sébastien Farcy.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Sébastien, les pèlerins viennent se baigner dans le Gange, mais franchement, vous n'y mettriez pas le petit doigt, moi non plus. La pollution y est épouvantable à cause des rejets industriels, mais pas seulement Sébastien.
La fanfare annonce l'arrivée des Naga Sadhu, les ascètes adorateurs de Shiva. Ils sont drapés en orange ou bien tout nus et juste recouverts des cendres du feu sacré. Ces moines se dirigent vers le lieu le plus vénéré de ce festival, la confluence entre les deux fleuves du Gange et de la Yamuna. Des dizaines de milliers de personnes les accompagnent et se jettent allègrement dans ces eaux. Ils s'immergent complètement et en ressortent en faisant une prière en direction du soleil. Narpad Patel, encore tout mouillé, arbore un sourire radieux. Il est venu de Bangalore, à 1700 km de là.
Je suis tellement heureux. L'eau était froide, mais je suis fier de cette fête en l'honneur du Gange, notre mère à tous.
Dans le ciel, un hélicoptère jette des pétales de rose sur les baigneurs. Le gouvernement régional, dirigé par un moine nationaliste hindou, a prévu de dépenser plus de 500 millions d'euros pour cette Kumbh Mela, devenue une vitrine politique à 3 mois des élections législatives. Dev Baba, 60 ans, est ému par ce spectacle.
Les mots me manquent, c'est un moment unique dans ma vie. Ici, vous avez des riches, des pauvres, des gens de haute ou de basse caste. Mais quand nous nous déshabillons pour nous baigner dans notre mer, le Gange, il n'y a plus de différence entre nous.
Ce pèlerinage de la Kumbh Mela a lieu environ tous les 3 ans dans 4 villes différentes en Inde. Pour beaucoup d'hindous de classe populaire, il représente le voyage d'une vie. Jagdish Chaudhry accompagne l'un des groupes de sadhus venus du Gujarat à 1300 km d'Allahabad.
Je viens me baigner dans notre mer le Gange pour purifier mon corps et pour prier pour mes ancêtres défunts. Je demande alors aux dieux qu'ils leur offrent le moksha, la libération par la fin des réincarnations.
Ce Gange tant vénéré est pourtant bien malade. Rien qu'au niveau de cette ville d'Allahabad, la concentration en matière fécale est en temps normal 10 fois supérieure au niveau maximum recommandé pour la baignade. Une grande partie des eaux usées des villes riveraines partent en effet directement dans le fleuve et du chrome y est également rejeté par les tanneries de la ville de Kanpur, plus en amont. Mais pour les dévots, le Gange est une déesse invincible. C'est ce que soutient Ramkrishna Dwivedi. Cet ingénieur a une relation charnelle avec ce fleuve. Il est né sur ses rives, dans cette ville d'Allahabad.
Vous savez, il y a une bonne bactérie dans l'eau du Gange qui tue toutes les mauvaises bactéries. Et cela lui permet de se régénérer. Le Gange n'est donc jamais dénaturé. C'est pour cela que nous pouvons dire qu'elle contient l'eau la plus pure sur Terre.
The purest water on the earth, you may say.
I mean, if you put a lot of chemicals, si vous mettez beaucoup de produits chimiques ou même les eaux usées, ça va pas rester si pur.
Si, car même les eaux usées des villes sont automatiquement converties en de l'eau du Gange. Cette eau reste donc toujours pure. C'est pour ça que tout hindou emporte de l'eau du Gange chez lui. Et dès qu'il y a une importante cérémonie religieuse, il utilise cette eau. Sans l'eau du Gange, il n'y a plus d'hindouisme.
They always use Ganga water. Without Ganga water, there is no imagination of religious life, religious life in Hindu.
Et vous la buvez?
I have also. I might.
Oui, je peux. Je vais en boire. Regardez.
No problem.
Yeah, because I mean, there are studies that show. Il y a des études qui montrent que l'eau est très polluée. Elle est pas saine à boire.
Actually, there are two.
Il y a 2 manières de voir les choses. Si vous prenez le Gange et comparez son eau avec les autres fleuves, elle semble polluée, oui. Mais si vous la considérez comme sacrée, si vous considérez que le Gange est votre mère, alors non, une mère ne peut jamais être polluée.
Les sadhus, eux, ne sont pourtant pas aveugles, surtout quand ils viennent de l'étranger. Et c'est le cas d'un Français appelé Daniel Bhagwan Giri. Cet homme souriant de 69 ans a la longue chevelure blanche et il porte une tunique safran recouverte de colliers religieux. Il a rejoint cette communauté d'ascètes il y a 30 ans et ça vous sceptique quant à l'avenir du Gange.
Les gens avec peu d'éducation, ils sont toujours de croyance que le Gange étant le bon Dieu, il nettoie tout. De l'eau, c'est peut-être la vie, mais bon... À force de pisser dedans, ou de chier dedans surtout, ça va plus quoi. Quand je suis arrivé, il y avait 25 grands égouts qui se déversaient dans le Gange à Benares. Maintenant, il y en a 37. Tout le nord de l'Inde se jette dans le Gange.
Le gouvernement fédéral a lancé il y a 4 ans un gigantesque plan pour freiner la pollution du Gange, mais cela n'a eu pour l'instant qu'un effet marginal.
Pendant la Kumbh, il a tout de même forcé les tanneries en amont d'Allahabad à fermer, car le chrome que ces usines rejettent dans le fleuve peut être cancérigène pour les millions de baigneurs de ce pèlerinage.
Sébastien Farcy qui est sorti du Gange sain et sauf, enfin, en tout cas pour l'instant et pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Sébastien. Gorillaz sur France Inter. 19-2000.
The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keeping my groove on. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on.
Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine.
Sur France Inter.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
We're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Et comme toutes les semaines, Julia Foyce n'a besoin de personne pour nous rappeler qu'un homme sur deux est une femme. La chronique pour tous donne chaque mardi des nouvelles des femmes bonnes ou mauvaises dans le monde. On commence avec la tempête de la semaine.
Ça grondait, ça enflait, puis tout à coup, bam, ça a déferlé sur les réseaux sociaux. Un éclair, puis deux ont déchiré le ciel. Ici, des cris de joie, là, un vent de panique, partout la bourrasque de la polémique, Fabienne. Elsa, blonde, jeune femme au regard si franc, serait-elle lesbienne? La reine des neiges aimerait-elle les femmes? Alors ça y est, vous l'assumez, ça y est, enfin on sort du placard, enfin on dit aux petites filles qui vous regardent qu'un autre happy end est possible. Tweet après tweet, Disney est sur la sellette depuis quelques jours et c'est la question qui circule sur les réseaux sociaux, avec quelques éléments pour étayer l'hypothèse. D'abord, sur cette bande annonce de la Reine des Neiges 2 que vous entendez là, il n'y a toujours pas de prince charmant. Une princesse sans prince charmant.
Bah, peut-être il fait les courses.
En tout cas, il n'est pas là. Déjà, à la sortie du premier volet de ce qui reste à ce jour le plus gros succès commercial de Disney, c'est justement le détail qui avait déclenché toutes les spéculations sur la lesbianité d'Elsa. Un hashtag, Give Elsa a Girlfriend, donner à Elsa une petite amie, avait circulé alors sur Twitter. De nombreuses pétitions avaient été lancées dans la foulée. Pour rien, motus du côté de Disney, zéro réponse depuis 5 ans, aucune prise de position sur le sujet. On sait juste qu'il suscite beaucoup de discussions au sein de l'équipe d'animation. Alors c'est rigolo parce que, autant une princesse
princesse qui tombe amoureuse d'une bête poilue ou d'un ogre vert qui pue, bon, bah, pas de problème. Mais une femme, on discute, ok? Ok, mais alors qui est ce nouveau personnage qui apparaît sur ces images? Une jeune femme aux cheveux bouclés qui porte des pantalons, je dis bien des pantalons. Clairement, ça y est, pour les fans LGBT de La Reine des Neiges, le coming out sera fait à la sortie du film dans quelques mois. Là où ils n'ont pas tout à fait tort, c'est que, pantalon ou pas, La Reine des Neiges est déjà très différente des autres héroïnes de Disney, plus forte, plus indépendante, plus courageuse. Mais au-delà, cette histoire hein, de super pouvoir qu'on cache, ce secret qu'on renferme en soi alors qu'on brûle du désir de pouvoir s'exprimer, cette jeune femme qui, pour être enfin heureuse et épanouie, devra partir de chez elle, quitter ce château où elle étouffait pour affronter le monde, grâce ou malgré sa différence. Niveau métaphore filée, on est pas mal.
Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais.
Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Fabienne, avouez que ça sonne un petit peu différemment à l'oreille maintenant, hein?
Allez, maudit refrain, on continue avec le hashtag de la semaine.
Il nous vient d'Algérie, pourrait se traduire par « prisonnière du voile ». Les femmes qui ont rejoint le mouvement sur les réseaux sociaux protestent contre l'interdiction de sortir tête nue dans l'espace public. C'est Célia qui écrit « Aucune femme au monde n'a envie de s'enterrer sous des mètres de tissu, quoi qu'elle dise. Toutes contestent l'idée assez répandue selon laquelle les femmes choisiraient librement de se couvrir la tête. Qui peut parler de choix quand tout ton environnement social ou familial te contraint ?» interroge-t-elle. Le père de Sarah, par exemple, professeur d'université qui la force à mettre le hijab à 13 ans, la menace de la retirer de l'école et de la marier de force si elle refuse. « J'ai tout haï », tweet Sarah. « J'ai même pensé au suicide à 15 ans et aujourd'hui, à 27 ans, je suis encore obligée de le porter. » Vous criez que porter le voile est une liberté, dénonce le collectif des femmes insoumises, mais vous faites vivre l'enfer à celles qui le retirent. Des voix comme celles-ci sont rarissimes. En Algérie, elles font penser à ces iraniennes qui, de plus en plus nombreuses ces derniers mois, sortent dans la rue pour enlever leur voile en public. Les algériennes sont encore un petit peu plus timides que ça. Mais ça y est, des hommes ont rejoint le mouvement, affichant leur soutien clairement sur Twitter. Et on le sait, Fabienne, il est des combats qui ne se gagneront que quand les deux sexes s'y mettront. Je dis ça, je dirais.
Oui, contrairement aux apparences, le foulard n'est donc pas exclusivement féminin. On en termine avec cette étude incroyable menée par l'Université de Washington.
Les femmes ont un cerveau qui vieillit moins vite que celui des hommes, alors que la communauté scientifique n'a toujours pas réussi à nous dire clairement si ou à quel point le cerveau variait structurellement en fonction du sexe. Cette équipe américaine a constaté que la masse de matière grise diminuait plus fortement avec les années chez les hommes que chez les femmes, ou dit autrement, les femmes gardent plus longtemps leur capacité cognitive que les hommes, sans qu'on sache très bien pourquoi. Serait-ce par exemple l'usage abusif de la PlayStation ou un trop grand nombre d'heures passées au salon rétromobile? Je ne sais pas, Fabienne, je ne sais pas. Les chercheurs essayent toujours de comprendre pourquoi. En tout cas, au même âge officiel, les cerveaux masculins auraient 3 ans de plus que les cerveaux féminins, en termes de vieillissement. Comme quoi, en fait, ils sont très mûrs à l'intérieur.
Voilà, et quand c'est trop mûr, attention, ça tombe d'un coup. Redoutable Julia Foyce, qui tire sa révérence, mais qui reviendra mardi prochain. Merci Julia.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, à un mois de la date officielle du Brexit, théoriquement à 3 mois d'élections européennes qui pourraient créer un Parlement politiquement éclaté, on en parlait précisément hier, l'Europe s'interroge sur ses divisions. Et si on inverse le miroir, on s'aperçoit que plusieurs leaders étrangers se frottent les mains devant ces divisions. C'est votre monde à l'envers.
Alors on peut y voir un simple hasard du calendrier, mais je vais vous dire, j'y crois pas totalement. En l'espace de 48 heures, entre aujourd'hui et demain, plusieurs dirigeants étrangers, Trump, Netanyahou, Poutine, essaient de gratter là où ça fait mal, là où les Européens ne s'entendent plus entre eux. On va commencer avec Donald Trump. Demain, à Washington, il accueillera Sébastien Kurz, le jeune chancelier autrichien arrive aux États-Unis dès ce soir. Il commencera par un entretien avec le patron de la diplomatie, Mike Pompeo. Kurz est donc bien reçu parce qu'il a beaucoup pour plaire à Trump, son gouvernement d'alliance droite-extrême droite, sa politique anti-immigration et ses prises de position relativement favorables à la diplomatie américaine sur la Corée du Nord ou sur l'OTAN. Trump voit en Kurz une préfiguration de l'Europe de demain, par opposition à l'Europe d'hier, celle de l'axe franco-allemand qui refuse de l'écouter sur l'Iran ou sur la défense. Le président américain a déjà tâté le terrain, on le sait, son ancien conseiller Steve Bannon a joué les éclaireurs ces derniers mois pour essayer de coordonner les forces de droite radicales populistes en Europe. Trump Trump mise sur des hommes comme Kurz, il y voit un placement d'avenir.
Alors, deuxième exemple, Netanyahou.
Avec une tentative en partie avortée, mais révélatrice. Le Premier ministre israélien espérait réunir aujourd'hui à Jérusalem tous les membres du groupe de Visegrad, autrement dit la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, tous membres de l'Union européenne. Le projet a déraillé sur la fin, parce que la Pologne a claqué la porte après des propos du nouveau ministre israélien des Affaires étrangères sur l'antisémitisme supposé des Polonais, mais les trois autres dirigeants sont quand même venus pour des entretiens bilatéraux. Et ce qui compte dans cette histoire, c'est le fait même que Benjamin Netanyahou ait pris cette initiative. Il y a de nombreux Israéliens qui ne comprennent pas cette main tendue aux droites nationalistes européennes, qui dans certains cas, il faut bien le dire, comme la Hongrie, ont de forts penchants antisémites. Ça n'arrête pas Netanyahou. Pourquoi ? Pour trois raisons sans doute. La première, c'est que le Premier ministre israélien est en campagne. Les élections en Israël sont prévues le 9 avril et il cherche des coups diplomatiques. La deuxième, c'est sa proximité idéologique avec les gouvernements de ces pays sur les questions d'identité nationale, d'immigration. Enfin, la troisième, c'est qu'il essaie méthodiquement de créer des divisions en Europe sur le conflit israélo-palestinien pour mettre fin au soutien traditionnel de l'Union à la solution des deux États. Comme Trump, donc, Netanyahou fait un placement sur l'avenir. Il mise sur ses pays de Visegrad comme sur un cheval de Troie.
Et vous nous disiez aussi donc Poutine.
Là aussi, coïncidence du calendrier, il s'exprimera demain, c'est son grand discours annuel. Et il faudra là aussi surveiller les appels du pied à certains dirigeants européens. Les Russes, je vais vous dire, sont ravis de la brouille entre Washington et les Européens, en particulier sur la question de l'OTAN. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ne s'en est même pas caché lors de la conférence sur la sécurité de Munich le week-end dernier. Il est enchanté de l'état de la relation transatlantique. Je cite « Nous voyons de nouvelles fissures apparaître et d'anciennes fissures se creuser. Joie et bonheur à Moscou. » La Russie vise une levée des sanctions européennes sur l'Ukraine et elle mise en particulier sur Matteo Salvini. L'actuel ministre de l'Intérieur italien espère sortir des élections européennes avec un rôle pivot après la poussée annoncée de la droite radicale. Pour Moscou, c'est donc le bon cheval. On se résume. Trump, Netanyahou, Poutine, voilà au moins trois faits penchés sur les divisions européennes avec convoitise. On pourrait ajouter le chinois Xi Jinping qui voit dans l'Europe du Sud, la Grèce, le Portugal une porte d'entrée commerciale. Autant de génies qui ne sont pas animés des meilleures intentions. Ils parient sur une Europe divisée, recomposée après les élections de fin mai. L'Union européenne pourra-t-elle résister ? C'est pas gagné.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde, le 18-20, la suite, c'est juste après ça.